Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du jeudi 14 novembre 2024. Malgré un contexte économique plus tendu, la Ville de Québec a annoncé mercredi qu'elle ajoutera 11 millions de dollars à son budget culturel au cours des 5 prochaines années. Une bonification essentielle selon le maire Bruno Marchand, alors que les plateformes américaines en ligne occupent une place importante chez les jeunes.
On a choisi d'envoyer le signal que sur le moteur économique, c'est un moteur économique important, que c'est un facteur humain important, que c'est un facteur social important, que c'est un facteur d'intégration à notre communauté, que c'est un facteur d'émancipation et que comme capitale nationale, on ne pouvait pas passer à côté.
Il s'agit d'une augmentation de 25 % sur 5 ans par rapport au budget de 44 millions de dollars en 2024. Un investissement qui permettra de rendre la culture plus accessible pour tous, selon la responsable de la culture au comité exécutif, Catherine Vallière-Roland.
C'est justement parce que le contexte est difficile pour nos citoyens que c'est intéressant de leur offrir aussi de la culture à moindre coût. Donc, on vient aider les familles qui sont justement dans un contexte un petit peu plus difficile.
L'administration Marchand a également annoncé qu'elle lancera au printemps un agenda culturel en ligne pour rassembler l'offre culturelle de Québec. Citant un article du Globe and Mail paru le 4 novembre dernier, le collectif 1629 et ses alliés demandent à la Ville de cesser de nier l'existence du profilage racial à Québec. L'article révèle que les Noirs et les Arabes sont surreprésentés dans les arrestations policières à Québec. Le collectif veut que la Ville documente les interpellations policières selon l'origine ethnique et religieuse et qu'une recherche indépendante sur le profilage racial exercé par le SPVQ soit commandée par l'administration Marchand. L'ancienne vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Québec, Julie Lemieux, sera la prochaine directrice générale du Musée de la Civilisation. Après son passage en politique municipale, Julie Lemieux a secondé le musée dans sa vaste réflexion visant la transformation du musée de l'Amérique francophone, la mise en valeur du site historique du séminaire de Québec et de ses exceptionnelles collections, tout en occupant le rôle de secrétaire générale du musée. Nommée pour 5 ans, Julie Lemieux rejoindra les rangs de sa nouvelle équipe le 9 décembre prochain. Du 14 au 19 novembre, Accès Transport Viable présente une exposition multimédia portant sur les témoignages recueillis au cours de la recherche-action « Rue sans peur ». Ce sera l'occasion de découvrir les réalités du harcèlement de rue dans la capitale nationale et en Chaudière-Appalaches à travers des œuvres saisissantes et des témoignages poignants. L'exposition a lieu au Café Pêche Sherpa, situé au 130 boulevard Charest-Est. Le vernissage a lieu ce soir de 16h30 à 19h. Des bouchées y seront offertes. C'est ce qui complète cette édition du bulletin. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Simplicité. Petit, et j'avais à peine assez de place pour y accueillir ne fût-ce qu'un simple écho, mais il me semblait grand parce qu'il était tout en une pièce et loin du voisin le plus proche. Tous les pôles d'attraction d'une maison s'y trouvaient concentrés en une seule pièce qui servait de cuisine, chambre, salon et garde-manger. Et quelles que fussent les satisfactions que les parents et les enfants, les maîtres et les servants peuvent tirer du fait de vivre dans une maison, je jouissais de chacune. Selon Caton, le maître de la famille doit posséder dans sa villa de campagne un cellier pour le vin et pour l'huile, de nombreux tonneaux afin d'atteindre plaisamment la vue, la venue des temps difficiles. Cela sera bon pour lui, pour sa vertu et pour sa gloire. J'avais dans mon cellier une bonne caisse de pommes de terre, un demi-gallon de pois avec leur charançon et sur mon étagère un peu de riz, un pichet de mélasse ainsi qu'une poignée de seigle et une autre de maïs. Je rêve parfois d'une maison plus vaste et plus peuplée, dressée en un âge d'or, construite avec des matériaux durables, sans ornements de gâteaux à la crème, qui ne comprennent cependant elle aussi qu'une seule pièce. Grande salle fruste, essentielle et primitive, sans plafond ni plâtrage, aux poutres apparentes, soutenant une sorte de premier ciel au-dessus de nos têtes, parfait pour abriter les hommes de la pluie et de la neige, où les maîtres piliers se dressent pour recevoir votre hommage après que vous vous êtes prosterné devant quelques Saturnes d'un lignage plus antique, en franchissant le seuil. Une maison caverneuse dans laquelle il vous faut brandir une torche en vue d'un pieu pour voir les pans du toit où certains autres peuvent vivre dans la cheminée, d'autres dans le renforcement d'une fenêtre, d'autres encore sur des bancs, certains à un bout de la pièce, certains à l'autre, et d'autres enfin tout là-haut, sur les poutres, avec les araignées, si c'est ce qui leur plaît. Une maison dans laquelle vous entrez sitôt que vous en poussez la porte, sans plus de cérémonie. Une maison où le voyageur fatigué peut se laver, manger, converser et dormir sans faire plus de chemin. Un abri comme vous aimeriez en atteindre par une nuit de tempête, contenant toutes les choses essentielles qu'une maison doit contenir, mais rien qui servit au ménage. Où vous voyez d'un seul regard tous les trésors domestiques, où pend à sa patère chaque chose utile à l'homme, tout à la fois cuisine, office, salon, chambre, cellier et grenier, où se présentent d'emblée à la vue ces objets si nécessaires que sont le tonneau et l'échelle, si utiles que peut l'être un placard, où vous entrez, vous entendez bouillir la marmite et où vous rendez hommage au feu qui cuit votre dîner, au four qui cuit votre pain, une maison dont les grands ornements seraient les meubles nécessaires et les ustensiles utiles, d'où l'on ne bannit ni la lessive, ni le feu, ni la gouvernante, et où l'on vous demande peut-être de temps à autre de vous pousser de la trappe afin que le cuisinier puisse descendre au cellier, vous donnant là une occasion de découvrir, sans même taper du pied, si vous tenez au-dessus d'un sol plein ou d'un sol creux.
C'est une grande joie de marcher avec vous, Henry. Je me sens empressée de vous dire ma confiance.
Je remplace monsieur si loin de son foyer.
Vous êtes l'éclat vivant de la providence.
J'aime veiller sur la maison, les enfants et les fleurs. Je serai toujours là, quoi qu'il arrive.
Auprès de moi, je vous sais craintif et rêveur.
L'amitié supporte les absences de l'âme pensive. Il faut écrire, laisser sa trace. Écrire la messie vaste. Il faut écrire, choisir la vie, le murmure et le cri. Il faut écrire, laisser sa trace. Écrire la messie vaste. Il faut écrire, choisir la vie, le murmure et le cri.
Allons à la découverte
destine à mon égard dans la nuit noire.
Emerson vous appelle l'arpenteur des tempêtes.
Je ne mène pas une vie tranquille de désespoir. Il faut écrire, laisser sa trace. Écrire la messie vaste. Il faut écrire le jour, la nuit, ce que le cœur nous dit. Il faut écrire, laisser sa trace. Écrire la messie vaste. Il faut écrire, choisir la vie.
Sera. Si je ne suis pas moi, qui le sera?
Si je ne suis pas moi, qui le sera?
Alors, bienvenue en toute simplicité. Aujourd'hui, on va parler du temps. C'est un sujet qui est très important en simplicité volontaire, la réflexion sur le temps. En fait, c'est ce qu'on dit en simplicité volontaire, c'est qu'on se donne plus de temps en jouant sur les différentes marges de manœuvre qu'on a, notamment en réduisant le temps qu'on consacre au travail, par exemple. Et on aura comme invité Christine Lemaire, que j'ai déjà eu en entrevue il y a quelques années. Elle était même venue à un de nos colloques sur la simplicité volontaire, qui a écrit un livre en 2011 qui s'appelle, le titre c'est « À contre-temps, gérer moins, vivre mieux ». Et ce livre-là, il est toujours aussi pertinent qu'il l'était à l'époque. Alors, on va parler du temps avec Christine Lemaire. Avant ça, j'ai quelques annonces, quelques lectures dont je veux partager avec vous. Tout d'abord, on avait annoncé sur le site Internet là, du Comité Simplicité Volontaire des Amis de la Terre. Si vous allez sur le site Internet des Amis de la Terre, vous trouvez le site du Comité Simplicité Volontaire. Et on annonçait un café philo vendredi prochain, le 22 novembre, à la librairie La Liberté. Et c'est reporté. Le café philo de vendredi prochain, il est annulé. Il est reporté au 6 décembre, toujours à la librairie La Liberté. Et idéalement, on demande de vous inscrire. Alors, si vous voulez participer au café philo du 6 décembre, il s'agit de téléphoner à la librairie pour donner votre nom, vous inscrire au café. On a eu d'ailleurs un café philo hier au café Motas, qui était vraiment intéressant. On a eu une réflexion sur la colère, très pertinente, et surtout ces temps-ci, avec ce qu'on voit un peu partout, la montée des partis de droite un peu partout, qui reflète une colère collective. On a réfléchi là-dessus. Aussi, je vous souligne qu'on aura une conférence sur la transition énergétique qui est offerte par le Comité Simplicité Volontaire. C'est le 24 novembre à l'église Sainte-Foy. Excusez, je vais vous donner le nom de l'église. Voilà, c'est à l'église Saint-Benoît-Abbé, 3420 rue Rochambeau à Sainte-Foy. C'est Pierre-Olivier Pinault. Transition énergétique vers des systèmes énergétiques plus équilibrés. C'est d'actualité, là. On est dans le temps de la COP 29. Et puis, on va voir, là. C'est jusqu'au 22. D'ailleurs, j'ai quelques articles que j'ai retenus, là, à ce sujet-là, dans Le Devoir, justement, d'aujourd'hui, qui paie qui paie quoi, qui veut quoi. Alors, la COP29, qui se déroule à Bakou, se focalise sur le millier de milliards de dollars à négocier pour aider les pays en développement à réduire leur dépendance aux énergies fossiles et à s'adapter aux catastrophes climatiques. Les âpres négociations de la conférence sur le climat des Nations unies doivent répondre le 22 novembre à cette question. Combien les Occidentaux et le Japon s'engageront-ils à verser au-delà de leur précédent engagement de 100 milliards de dollars par an pour 2020-2025? On va en savoir. Il n'y a pas beaucoup de choses qui émergent de la COP. On va attendre. Là, c'est ça. On va en savoir plus probablement la semaine prochaine. D'ailleurs, dans le Devoir de mercredi, on a un article à la COP29, les avis divergent sur l'avenir du pétrole. Évidemment, ça se passe dans un pays producteur de pétrole. Alors, il y a beaucoup de représentants de l'industrie du pétrole qui sont plutôt, ont tendance à vouloir ralentir le processus, disons, qui pensent qu'on doit, maintenir l'utilisation, on doit conserver l'utilisation du pétrole. En tout cas, on va en savoir un peu plus long. On dit justement dans le Devoir d'hier, le plan ambitieux du Brésil freiné par d'autres pays. Ces débats économiques et climatiques se tiennent dans l'année qui sera vraisemblablement la plus chaude jamais mesurée et battra encore un record d'émissions de CO2 générées par la combustion du charbon, du pétrole et du gaz, selon une nouvelle estimation des scientifiques du Global Carbon Project. Cette étude ajoute que le monde doit viser zéro émission nette de CO2 d'ici la fin des années 2030 pour espérer contenir le réchauffement mondial à 1,5 degré par rapport à la fin du 19e siècle, soit beaucoup plus tôt que 2050, l'horizon actuellement envisagé. Ça avance pas beaucoup, on dirait, mais en tout cas, on va en savoir un peu plus long vendredi prochain, là, qui sera la dernière journée de la COP29. Dans aussi d'autres lectures que j'ai pour vous, ben il y a, j'en ai parlé la semaine dernière, le Philosophy Magazine qui est en kiosque actuellement et c'est en lien avec notre sujet d'aujourd'hui d'ailleurs, la thématique du Philosophy Magazine qui est en kiosque, comment trouver le bon rythme. Et on va probablement en parler de ça là, avec Christine tout à l'heure. On parle par exemple d'accorder le véritable sujet du rythme est donc bien in fine de savoir qui dicte son temps. Autrement dit, le rapport au temps demeure toujours un rapport au pouvoir. Puis là, ben, on peut, par exemple, une première voix cherche un modèle dans la perfection de la nature. Le bon rythme est alors d'inspiration cosmologique ou divine. C'est l'harmonie des sphères, la circulation des astres ou la régularité des saisons. Platon définit ainsi le rythme comme l'ordre dans le mouvement, un principe métrique d'organisation de la vie, l'expression du logos qui donne forme et mesure à la matière. Le bon rythme est d'ailleurs au centre de son utopie sociale. Les gardiens de la cité, écrit-il dans La République, toujours attentifs à veiller sur eux-mêmes et fidèles à la musique dont ils ont reçu les leçons, montrent dans toute leur conduite une âme réglée selon les lois du rythme et de l'harmonie, tel enfin qu'ils doivent être pour rendre les plus grands services à eux-mêmes et à l'État. En tout cas, on va en parler un peu plus. C'est dans le Philosophy Magazine là, qui est en kiosque actuellement. On va avoir Jacques Sénécal qui va venir faire sa chronique à l'émission du 29, c'est-à-dire dans 2 semaines. Et il vient de publier un livre, Jacques, « Une étoile filante entre deux néants et d'autres destinations philosophiques ». C'est aux éditions Fides. Et c'est une série de questions-réponses. C'est des petits essais, dans le fond. Par exemple, si on regarde le chapitre 20, « Est-ce que toute opinion doit être respectée? » Respecter La personne, oui, elle doit être respectée en tout temps, mais son opinion, non, pas toujours. La personne ne se réduit pas à ses idées. Quand on entend à la radio « je respecte votre opinion », s'agit souvent d'une formule de politesse, car certaines opinions ne sont aucunement respectables à cause de leur totale fausseté ou parfois à cause de leur teneur haineuse. On en a vu un exemple un peu cette semaine là-dessus. Bref, si ça vous intéresse, c'est en librairie. Une étoile filante entre deux néants de notre chroniqueur habituel, Jacques Sénécal. Alors, voilà, c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire. Donc, on prend une petite pause musicale, puis au retour, on va échanger avec Christine Lemaire sur le temps.
Tout ce que j'entends, c'est une voix qui dit respecte la vie. De la nuit des temps, tout ce que j'entends, c'est une voix qui dit respecte la vie. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Le temps sacré de l'autochtone, ce n'est pas un cadran qui sonne. Il est des lunes et des saisons, sans une fortune à l'horizon. C'est tout le temps d'une culture, d'une cueillette dans la nature. Parfois celui d'un long silence face à l'homme blanc qui est sans patience. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Hi, 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 hi. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Hi, 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 hi. Plus il reçoit et moins il donne, le conquérant qui réquisitionne. Sciences ancestrales et traditions, les traites de superstition. Il veut niveler notre culture à force de coups et de blessures. L'Indien le met sous surveillance, cet homme blanc qui est sans patience. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Hi, 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 hi. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Hi, 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 hi. Vient le moment où le glas sonne et où le tonnerre résonne. Pour les terres en spéculation, les mers en surexploitation, le capital en démesure se garde la planète en pâture. L'Indien fait preuve de résistance devant l'homme blanc qui est sans patience. Hi, hi, hi. Tout ce que j'entends, c'est une voix qui dit respecte la vie de la nuit des temps. Tout ce que j'entends, c'est une voix qui dit respecte la vie. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. De la nuit des temps, tout ce que j'entends, c'est une voix qui dit respecte la vie. De la nuit des temps, tout ce que j'entends, y a plus d'une voix qui dit respecte la vie.
C'était Jean-Marc Aurel, la pièce c'est « Respecte la vie ». Avant ça, on avait eu Richard Séguin de l'album « Retour à Walden », c'est « Promenade sur les chemins de Walden ». Puis, ça faisait suite à ma lecture d'un extrait justement de Henri-David Thoreau, « Walden ». Alors, Christine, est-ce que tu es avec nous?
Oui, je suis là.
Bonjour. Alors... on commençait avec Jean-Marc Aurel qui nous parlait de respecter la vie.
Oui.
Le temps, j'aime beaucoup les Indiens, ils disent il y a le temps indien. Le temps indien, c'est qu'on fait les choses pas avec. Il dit c'est pas un cadran qui nous décide, qui nous dit quoi faire, c'est on fait les choses au moment opportun.
Oui, effectivement. Puis ça va effectivement avec les idées que j'ai développées dans mon livre.
Oui, oui. Alors, ben c'est ça. C'est très riche ton livre, je regarde ça, il y a beaucoup de... Et puis, on a tendance à uniformiser, à voir le temps comme quelque chose qui est tout pareil, mais dans le fond, ce que tu oui. dis, c'est multiples sortes de
oui.
temps.
Oui, puis ce que j'ai appris depuis, c'est que en fait, on ne comprend le temps comme on le comprend aujourd'hui juste depuis le 18e siècle. En fait, juste depuis que les horloges existent. Alors, avant, ça n'existait pas, les horloges. Donc, on avait une autre façon de calculer le temps, qui était le temps que prend... le temps que ça prend faire quelque chose. Alors, on appelait ça, les historiens appellent ça le temps concret. C'est-à-dire, moi, je vais repriser ma robe. Ben, ça va me prendre combien de temps? Ben, je le sais pas, en minutes et en heures, ça n'a pas été inventé. Alors, on se dit, ben, ça va prendre le temps que je répare ma robe, que je sorte mon matériel, que je fasse la reprise et que je coupe le fil et que j'ai terminé. C'est tout. C'était comme ça avant. Alors, c'est depuis la révolution industrielle, en fait, que les horloges sont devenues extrêmement... Ça s'est fait de façon graduelle, mais... Les horloges sont devenues très, très présentes à partir de la révolution industrielle, donc à partir des usines et de tous ces calculs-là que ça prenait pour faire du profit, dont celui, le calcul de la productivité.
Oui, puis ce que ça fait, c'est que dans le fond, on a un temps aujourd'hui uniforme qui est réglé par des
oui.
horloges.
Oui, et puis l'idée, c'est qu'on essaie de tout rentrer nos temps concrets dans une seule façon de voir le temps. C'en est une. Aujourd'hui, on peut pas s'en passer là, de l'horloge. Ne serait-ce que, moi j'appelle ça le temps linéaire. Le temps linéaire, il nous permet d'aller à des rendez-vous pour arriver tous au même endroit, au même moment. C'est important. Mais l'idée de tout calculer en heures, ça, c'est même pas réaliste. Et ce que ça fait dans la tête des gens qui se disent qu'il n'y a qu'un temps, ben ça fait beaucoup de dissonance cognitive, mettons, et ça crée beaucoup d'anxiété et ça crée surtout beaucoup de culpabilité parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas calculer. Alors, voilà. j'ai fait un peu de chemin depuis le livre, mais je suis absolument d'accord avec ce que j'en ai dit à ce moment-là, mais j'ai pu comprendre encore mieux l'importance d'avoir des temps que j'appelle multiples, en fait, pour que chaque temps puisse correspondre mieux à ce que l'on est en train de vivre. En fait, puis là, je me rends compte que mon intuition, c'était un espèce de retour à ces temps concrets-là qui existaient avant.
Ben, pour rappeler aux auditeurs, nous sommes avec Christine Lemaire, puis on parle de son livre « À contre-temps », qui a été publié aux éditions Fides en 2011, je pense.
Oui, oui, en 2011, puis j'en ai eu un autre après qui s'appelle « La surchauffe de nos agendas » en 2013.
OK. Puis, un peu situer les auditeurs, peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours puis comment tu en es arrivé là, à t'intéresser autant comme ça?
J'ai eu un père qui était très à cheval sur les heures. Il fallait jamais être en retard et c'était une grande source de stress. Mais ça m'a fasciné depuis que je suis toute jeune. Mais après, j'ai étudié en histoire. Alors, je suis historienne. Évidemment, le lien avec le temps est assez évident. Puis ensuite, étant donné que dans les années 80, avoir un travail en histoire, ça existait quasiment pas, j'ai bifurqué et je me suis en allée en affaires. En fait, j'ai étudié à l'École des hautes études commerciales. Et j'ai passé une dizaine d'années dans le monde des affaires. Et après, j'ai eu mes enfants. Puis là, il y a eu un grand clash là parce que j'avais un emploi extrêmement prenant. Et il a fallu que je prenne des décisions. J'ai décidé d'arrêter d'avoir un travail rémunéré pour m'occuper de mon fils et de ma fille qui est venue après. Mais pendant cette période-là, effectivement, c'est là que j'ai vécu le plus gros gap, le plus grand écart entre ce que moi je vivais, puis le temps de mes enfants, puis celui de toutes les personnes qui étaient autour de moi. Et c'est ça qui a démarré ma réflexion sur le temps. Mais depuis ce temps-là, je suis encore très passionnée par cette question-là. Et après quelques années, là, j'ai publié mon deuxième livre en 2013. Puis en 2014, j'ai commencé un doctorat en sciences humaines appliquées. Et la question fondamentale, c'était le temps. Et je me suis dirigée tranquillement sur la question de la productivité, qui est effectivement, comme je l'expliquais tantôt, le calcul qui fait qu'on est aussi à cheval sur les heures, puis qu'on veut à tout prix que chacune de nos heures soit devenue productive, même quand ce que l'on est en train de faire ne correspond pas à la productivité. Ça m'hallucinait, en fait, là. Et j'ai bien compris pourquoi ça se passait comme ça. Et j'ai aussi compris que... C'est que la productivité, j'ai étudié les professions qui est réglementée. J'ai étudié plus en droit les praticiens et praticiennes du droit, mais ça pourrait s'appliquer aussi en médecine. C'est que il devient à vouloir être productif parce que maintenant le droit c'est très très des cabinets privés puis tout ça. Ben on veut en avoir le plus pour notre argent, mais on se trouve à devoir rencontrer deux modes deux systèmes de valeurs, en fait. Le système de valeurs de notre profession pour un médecin, ce serait soigner. Et puis, le système de valeurs du néolibéralisme qui demande d'être profitable. Ce qui fait qu'un avocat, par exemple, il va rencontrer un client, puis tout le monde m'a dit qu'être avocat, c'est avant tout d'écouter quelqu'un, mais en même temps, il y a la deuxième contrainte qui se dit oui, mais il faut que ça soit productif. Alors, il faut que tu arrives, tu es toujours sur une faille entre deux systèmes de valeurs. Et ça, je l'ai vu, je l'ai entendu beaucoup. Ça mène à plus ou moins court terme, ça mène au burn-out.
Ouais,
parce... En fait, ce que je me disais, c'est qu'il y a un courant au HEC, là, en gestion, qui dit que quand tu aimes ton emploi, t'es pas supposé, ton emploi a du sens, alors t'es pas supposé de faire de dépression. Et moi, j'ai tellement vu des gens qui avaient plein de sens, dont l'emploi avait tellement de sens, et qui s'en allaient directement vers la dépression. Mais ce que j'ai compris, c'est que l'espèce de on appelle ça une injonction paradoxale, à savoir, ça te dit, faut que tu te prennes le temps d'écouter la personne que tu soignes ou que tu vas défendre, mais en même temps, il faut que ça soit le plus rentable possible, ton affaire, ce qui est impossible.
Puis il y a des choses ridicules, comme j'ai déjà vu dans des centres d'appel. C'était au lieu de prendre le temps de répondre à la personne, tout était calculé en fonction, c'est toujours chiffré, le nombre d'appels répondus.
Oui,
alors,
voilà.
Si la personne est mal répondue, par appel cinq fois,
ça fait
ses cinq appels, mais dans le fond, c'est un appel qui a dû être répété cinq fois. Alors, ça devient
Mais
paradoxal.
En fait, oui, c'est bien la chanson qui disait, c'est que l'homme blanc qui est sans patience. Et en fait, ce qu'il faut arriver à faire, c'est qu'on a pris un petit chemin rapide et on s'est dit que la productivité, qui est en fait bien faire, dans la productivité, il y a une question de qualité. Mais on s'est dit que plus qu'on allait vite, mieux c'était. Alors que c'est pas vrai. Il faut déconnecter l'idée que la qualité est liée à la vitesse. Mmh. La qualité, elle est liée à la vitesse de temps en temps. La qualité, là, quand il y a un autobus, quand il y a un camion qui arrive vers toi, oh oui, la qualité, c'est la vitesse parce qu'il faut que tu te tasses.
Mmh.
Mais quand tu veux vraiment comprendre une cause, par exemple, parce que là, c'est ça que j'ai beaucoup étudié, ou quand tu fais une thèse de doctorat, c'est pareil, c'est que ça fait en sorte que il y a des choses que tu seras pas productif parce que il va y avoir des fausses pistes. Quand tu écoutes quelqu'un, puis quelqu'un qui dit qu'il veut divorcer, mais que les avocats et avocates que j'ai eu en entrevue, ils me disent tout le temps. Ils m'arrivent toujours avec leur première demande, mais c'est jamais ça, la première demande. Faut aller chercher toujours qu'est-ce qui est le plus important. Et là, la personne t'explique toutes sortes d'affaires, mais ça, là, pendant qu'elle t'explique toutes ces affaires-là, l'heure roule, mais t'as pas atteint la vérité. Fait que toutes ces fausses pistes-là, puis quand tu fais de la recherche, c'est ce que je faisais aussi, là, quand tu fais de la recherche, des fausses pistes, il y en a immensément, mais chaque fausse piste t'amène à la bonne piste. Mais c'est pas de la productivité, c'est un processus. C'est un processus qui est humain et qui a besoin. C'est pour ça que j'aime beaucoup la chanson que t'as fait jouer tantôt. Là, franchement, tu pouvais pas mieux choisir. C'est ça, c'est que il faut respecter la vie, respecter l'humain. Et puis là, on pourrait parler d'écologie, là, tout le temps. Là.
Mais écoute, on va prendre une petite pause musicale.
Oui.
Puis au retour, on va peut-être parler, entre autres, des sortes de temps. Là, c'est important qu'on en parle. Puis aussi, on pourrait terminer avec l'écologie, une réflexion sur l'écologie. Donc, petite pause musicale, puis on poursuit notre discussion sur le temps au retour.
Parfait.
Thank you.
Alors, c'est Nathalie Choquette. Qui, c'est une trilogie que je pense que c'est assez récent, de cette année. Je ne sais pas si c'est quand c'est sorti exactement. C'est Lux Eterna, Lumière éternelle. Et la pièce, ben, c'était une célèbre pièce de Verdi, Va pensare. Et certains disaient que ça devrait être l'hymne national de l'Italie. C'est vraiment magnifique comme chant. Alors, on revient avec Christine Lemaire qui nous parle de du temps et aussi de son livre à contre-temps. Alors, on disait tantôt que le temps, on a tendance à l'uniformiser. C'est le temps linéaire, le temps de l'horloge qui domine notre monde et on s'en rend même plus compte là, qu'on est...
Exact.
Et mais toi, tu as étudié, tu as observé ça, puis tu as remarqué qu'il y a plusieurs sortes de temps.
Oui, oui. Quand on cherche un peu, on s'aperçoit que il y a beaucoup, beaucoup de sociologues, d'historiens, historiennes qui ont développé une réflexion sur le temps. La mienne, c'était de regarder autour de moi, de regarder la vie autour de moi et de distinguer. J'en ai trouvé 6 et puis j'en ai trouvé un 7e, au niveau de ma thèse. Une 7e que tout le monde connaît. Mais est-ce que tu veux que je les énumère, c'est
oui,
ça?
Ben oui, ben oui.
OK. Alors, il y a des temps qui sont... Il y a 2 catégories. Il y a des temps qui sont personnels, puis il y a des temps qui sont plus sociaux. Alors, dans mes temps personnels, j'avais, bon, évidemment, le temps linéaire, qui est un temps à cheval, qui est plus un temps social. S'il était bien utilisé, là, on l'utiliserait pour la coordination de la société, à savoir, justement, l'horaire des trains. Au début, là, c'était à ça qu'il servait, les transports. Alors que les trains partent à l'heure, puis que tout le monde soit dans le train à l'heure. Les rendez-vous, tout ça, j'en ai parlé tantôt. Alors ça, c'est le temps linéaire, c'est celui qu'on vit, qui s'est mis dans tous les autres temps, qui a pris la place de tous les autres temps. Les autres temps, c'est quand je les imaginais, il y a le temps écosystème qui fait en sorte que le temps écosystème, c'est le temps bienveillant, c'est le temps qui prend en compte toute la vie, à savoir que si t'arrives au bureau le matin et que tu viens de te chicaner avec ton conjoint ou ta conjointe, t'auras pas la même qualité de travail que si tu viens d'écouter la belle pièce qu'on vient d'écouter tantôt. Alors ça, c'est un temps qui tient en compte la texture de ce qu'on est, de ce comment on se sent. C'est pour ça que je l'ai appelé écosystème, c'est que si on se dit, mettons, un soir, je vais me coucher très tard, le lendemain, je vais m'en ressentir. L'horloge, elle ressent rien. Mais le corps humain, lui, il ressent les conséquences de s'être couché trop tard ou d'avoir trop bu ou d'avoir trop mangé. Alors, ça, c'est le temps, c'était ce temps-là que j'essayais d'imaginer. Ensuite, il y a un temps qui prend en compte la capacité d'évolution des personnes, à savoir, je l'ai appelé le temps spiral, parce que notre évolution, de la manière dont on se développe dans la vie, on suit pas une ligne, une courbe linéaire, justement, comme le temps voudrait qu'on suive, mais souvent, il va y avoir des écueils, on va reprendre au début. C'est pour ça que je le mets en spirale, pour tenir compte du fait que des fois, on fait des petites régressions, des fois, on voudrait évoluer plus vite, puis des fois, on évolue vite, bien, des fois, ça ralentit. Alors ça, c'est ça que je dirais qui va le plus avec le rythme dont tu parlais avec Philosophie Magazine. Ensuite, il y a le temps panoramique. Le temps panoramique, j'en ai parlé tantôt, à savoir, il faut souvent suivre, il faut avoir un grand angle avant de faire un focus. Quand on fait un focus puis qu'on n'a pas regardé toutes les options, ben on se lance dans des solutions qui, si on avait mieux vu, si on avait plus pris le temps de regarder le grand angle, on se serait aperçu que la solution qu'on a prise de façon intempestive n'était pas la bonne. Alors, et puis c'est le temps aussi de la productivité lente, là, à savoir, comme je l'expliquais tantôt, quelqu'un qui va prendre le temps de parler avec quelqu'un pour avoir vraiment c'est quoi l'enjeu principal de son problème.
C'est drôle parce que ça me fait penser au troisième lien à Québec où, justement, on n'avait pas le temps panoramique et là, on a eu 15 projets et... Parce que là, au lieu de prendre le temps d'étudier la situation comme il faut, de tout regarder, et après ça, prendre une décision, on prenait des petites décisions improvisées, ce qui fait qu'on a perdu du temps, de l'argent inutilement.
Là. Énormément, oui, effectivement. Oui. C'était un excellent exemple. Puis là, on va passer aux temps sociaux. Les temps sociaux, c'est... j'en ai deux, là. Le temps mosaïque puis le temps maillon. Le temps mosaïque, c'est celui qui fait... C'est celui du travail d'équipe. C'est celui qui fait que le résultat net est plus grand que ses parties, en fait. On peut être trois personnes et on prendrait chacun le bout de temps qu'on a mis dans un projet, ben le projet il va être plus grand que ce qu'on aurait pu mettre en termes de temps. Alors le temps mosaïque c'est un temps qui est productif, mais qui est productif dans le sens où si tu fais une manifestation puis t'es cinq, ben c'est cinq personnes qui prennent un après-midi à faire une manifestation. Si tu fais une manifestation puis t'es 1000, ben là, probablement que les gens ou le sujet ou le thème que tu veux défendre dans ta manifestation, il va porter pas mal plus si t'es 1000 que si t'es 5. Si t'es tout seul, en fait, tout le monde va dire ah ben lui est un petit peu ou elle est un petit peu bizarre. Alors que si on est 1000, ben les gens vont se dire « Oh mon Dieu, oui, effectivement, ça va les amener à mieux réfléchir. » Alors, c'est un temps qui grandit à mesure qu'on a plus de personnes. Puis, le temps, c'est parce que le temps linéaire, c'est un temps très individualiste. Parce que des fois, il y a des personnes qui sont productives, mais ils se disent très, très efficaces, là. Mais souvent, ils vont lancer pousser leur inefficacité dans le champ du voisin. En tout cas, tu sais, on veut aller vite, on travaille mal, on passe notre affaire à l'autre, l'autre est obligé de réparer nos affaires. Bon, ben, nous autres, on a été très productifs, mais la personne à côté a paye pour notre productivité. Ça, à mon avis, c'est pas de la productivité du tout, mais c'est l'idée du temps linéaire qui est un temps individualiste. Donc, c'est ma productivité à moi, c'est pas la tienne. Puis toi, ben arrange-toi. Puis c'est un peu ça. Alors, c'est pas un. Alors que moi, je trouve que les temps sociaux, les temps collectifs, comme le temps mosaïque, c'est un temps que si toi tu perds du temps, ben moi aussi, je me retrouve à en perdre aussi. Puis l'autre temps collectif, c'est le temps qui s'étale sur une longue période de temps. Celui qui fait que les premières suffragettes ont passé énormément de temps à vouloir avoir le vote des femmes, mais elles ne l'auront pas vu advenir. Mais sans elles, le résultat n'aurait jamais, jamais pu se concrétiser. Alors ça, c'est un temps qui demande beaucoup d'abnégation, mais c'est un temps qui est absolument essentiel parce que si aujourd'hui on s'occupe pas de l'écologie, par exemple, ben c'est pas notre génération qui va le plus payer, c'est la génération d'après. Alors toutes les COP ou toutes les tous les efforts qu'on peut faire au niveau de l'écologie. Des fois, on se dit, ah, mon Dieu, mais ça donnera rien, ça donne rien. Non, c'est des habitudes qu'on prend, qu'on va laisser à nos enfants, qui vont aller plus loin. Et là, ça, ça fait en sorte que dans le temps, là, on voudrait que ça soit le plus vite possible, là, puis mais c'est ça, c'est que c'est pas nous qui allons avoir les résultats de nos efforts. Ça prend une vision à long terme.
Ça me fait penser dernièrement que j'ai vu une conférence de général Roméo Dallaire qui, lui, a vu les horreurs de la guerre. Puis lui, il se dévoue complètement à la paix. Puis il dit, moi, je ne verrai pas la paix de mon vivant.
Voilà.
Mais je travaille, puis je sais qu'un jour, la paix, ça va exister sur Terre.
Oui,
c'est comme nous, la simplicité volontaire, on dit un jour, on n'aura plus besoin d'argent, ça va être quelque chose qui va être dépassé, nos besoins seront comblés, mais je ne pense pas connaître ça de mon vivant.
Exact. Pour être motivé, tu dois absolument te mettre dans une autre perspective qu'une perspective individualiste.
C'est ça.
Faut que tu sois dans le temps collectif, absolument, et aussi, c'est que le temps linéaire, c'est un temps court terme. Là. On est toujours dans. On parle de à court termisme. Là. Il y avait Servan Schreiber qui avait inventé ce néologisme-là. Là. On est dans l'à-court termisme, le à court terme. Alors que le temps maillon, puis le temps dont tu parles, c'est exactement ça. C'est qu'il faut se mettre vraiment dans un temps à très, très long terme.
Écoute, Christine, on va prendre une dernière petite pause musicale. Oui. Là. Juste deux minutes, puis on va conclure l'émission sur le temps et l'écologie.
OK.
D'accord?
Oui.
Juste un court extrait parce que l'émission achève. C'est l'album de. C'est Michel David Gagnon. J'adore le titre de son album, Flore Laurentienne. C'était la pièce Kamouraska. On va revenir avec cet album-là dans les émissions qui viennent. Alors, Christine, il nous reste 2 minutes pour conclure.
Ben, je conclurai en référant au passage de Thoreau que t'as évoqué en début d'émission. Je te dirais que ce que Thoreau a décrit, c'est une maison simple. C'est une maison où les gens prennent le temps de faire les choses. Donc, de prendre le temps de faire à manger, mais d'aller chercher les légumes au sous-sol et tout ça. C'est développé depuis ce temps une immense industrie de qui nuit à l'environnement, tout ce qui est jetable, tout ce qui est à court terme. En fait, on veut faire sauver du temps, alors on prend des serviettes jetables, on prend on époussette plus avec un torchon, on époussette avec le Swiffer, puis tout ça. Ça là, toute cette industrie là, elle marche sur à court terme, la vitesse. Et ça m'amène au dernier temps que j'ai découvert pendant ma thèse, la charge mentale. Aujourd'hui, on parlait pas de charge mentale dans le temps de la maison de Thoreau, parce que la charge mentale, elle existait pas. On faisait une chose à la fois. Aujourd'hui, étant donné qu'on est parents, on a un emploi, on est souvent impliqué dans plein d'autres choses, ben tous ces temps-là, qui sont dans un horaire très coupé au couteau parce que c'est des cases, mais en fait, si on prend aussi l'idée de l'écosystème, ces temps-là viennent tout mêler et ils sont tous entremêlés et c'est ça qui fait le stress puis c'est ça qui fait la charge mentale. Ce qui fait que effectivement, la simplicité volontaire, c'est un moyen très efficace, à mon avis, de baisser la charge mentale et de sauver l'environnement en même temps, parce qu'en prenant le temps de faire les choses, on a moins besoin d'aller vite et de prendre le raccourci non écologique qui serait de jeter toutes ses affaires sans laver, sans nettoyer, mettons, sans rincer ses boîtes de conserve ou parce que là j'ai pas le temps de faire ça, je vais les jeter comme ça. C'est la charge mentale est diminuée et l'écologie s'en trouve améliorée parce que on prend le temps de faire des choses dans des environnements comme celui que Toro a évoqué.
Mais Christine, c'est magnifique comme pour finir l'émission de revenir à Toro. Je te remercie beaucoup. On était avec Christine Lemaire. Son livre sur le temps, c'était « À contre-temps », puis tu en as publié un autre, là, je ne me souviens plus du titre.
Oui, ça s'appelle « La surchauffe de nos agendas ».
La surchauffe de nos agendas, puis...
C'est
tellement intéressant que j'ai le goût de te réinviter. Probablement qu'après les fêtes, je vais te rappeler pour qu'on fasse encore une autre émission sur le temps, parce qu'on n'a pas eu le temps d'aller trop loin. Ça passe trop vite, l'émission. Donc,
ça me fait plaisir.
Merci encore, puis on se revoit après les fêtes.
OK, ça marche.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.
Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine.
Québec Réveil, c'est l'émission matinale de CKIA et c'est moi, Philippe Arsenault, qui ai le bonheur de passer ce moment de la journée avec vous.